Salut à tous, c'est l'heure de sortie de veille, le podcast quotidien du club Hygiène. Vous n'allez pas le croire, c'est aujourd'hui l'épisode 42 de Sortie de Veille. Et c'est aussi le dernier épisode de notre première saison en votre compagnie. Ce podcast a été toute une aventure pour moi, pour l'équipe de MacG que vous avez pu entendre tout au long des enregistrements. Et j'espère que ça vous a plu parce que c'est quand même ça le plus important. Est-ce qu'il y aura une deuxième saison? Et si oui, quand? Ce sont de très bonnes questions sur lesquelles on va se pencher cet été. Et bien sûr, on va vous tenir au courant. Mais si vous avez des envies ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les passer, que ce soit dans les commentaires de l'actu ou sur Twitter ou ailleurs. On est à l'écoute. En attendant, il y a cet ultime épisode et puisqu'il n'y a aucune raison de ne pas faire comme on fait d'habitude, vous retrouverez Félix en deuxième partie d'émission pour un portrait de Suzanne Kerr, la créatrice des icônes du Mac originel et de tant d'autres choses. Nous sommes le mercredi 13 juillet, voici ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité. Impossible de les louper, les promos d'Amazon pour son Prime Day ont littéralement envahi les internets partout dans le monde, et aussi sur nos sites. On essaye quand même de vous proposer une sélection de promos qu'on juge intéressantes, et il y en a quelques-unes qui valent vraiment le coup d'œil. Comme l'iPhone 11 à partir de 474€, c'est du jamais vu pour un très bon smartphone, qui va bénéficier des mises à jour d'iOS pendant encore facile 3 ou 4 ans. Il y a aussi des promos sympas sur les Apple Watch Series 7 à partir de 360€, ce qui fait 69€ de rabais, ou encore l'Apple Watch SE à 254€ au lieu de 299€. Alors, je ne vais pas vous dresser toute la liste des bons plans parce qu'il y en a un petit paquet, mais si vous voulez faire de bonnes affaires et éviter les fausses promotions, n'hésitez pas à vous rendre sur MacG et sur nos autres sites. On va vous tenir au courant des Prime Day jusqu'à ce soir. C'est suffisamment rare pour être souligné, un smartphone assez populaire a été arrêté par la patrouille des ondes de l'ANFR. Le smartphone en question, c'est le Galaxy Note 10 de Samsung qui émettait trop d'ondes d'après les relevés de l'Agence Nationale des Fréquences. Samsung n'était d'ailleurs pas tout seul, puisqu'un modèle de Huawei et un autre de Gigaset dépassaient les seuils du DAS, le débit d'absorption spécifique. Dans ces trois cas, les constructeurs ont été prévenus par l'ANFR et ils ont mis en ligne des mises à jour pour réduire leurs émissions d'ondes. Plus de peur que de mal donc, les autorités veillent au grain. Mais généralement, les smartphones repérés par l'agence des fréquences sont des appareils d'entrée de gamme, assez peu distribués. Du côté d'Apple, aucun modèle depuis l'iPhone 8 n'a jamais dépassé les seuils limites. Après des mois et des mois de buzz assez infernal, le constructeur Nothing a dévoilé son tout premier smartphone baptisé Phone One. C'est un appareil Android milieu de gamme qui débute à 469€, ce qui est plutôt un bon prix au vu de la flambée des prix actuels. Le smartphone a plusieurs particularités comme par exemple ses rubans lumineux à l'arrière qui servent à prévenir de l'arrivée d'une notification. Ou encore cette surcouche Android qui a l'air d'offrir une interface qui sort de l'ordinaire. Ou encore cette galerie de NFT sur l'écran d'accueil. Je rigole, c'est pas une très très bonne idée. Globalement, on est quand même sur du smartphone Android qui n'a pas l'air de révolutionner le monde, mais est-ce que c'est le rôle d'un smartphone en même temps? Le Phone One va sûrement se vendre pas trop mal, mais est-ce que ce sera au niveau de l'intérêt généré par Nothing, parfois de manière assez artificielle ces derniers mois? Il faudra attendre pour le savoir. Les amateurs de petits smartphones ne seront probablement pas à la fête quand Apple présentera la gamme 2022 de l'iPhone. Le constructeur devrait en effet se passer d'une version mini cette année et plutôt mettre tous ses œufs dans un grand panier. Un iPhone 14 Max serait en effet dans les tuyaux, un modèle de 6,7 pouces comme les modèles Pro Max actuels, mais sans les gros flonflons de la gamme Pro. En bref, un smartphone aussi grand mais moins cher. Seul problème, Apple aurait du mal à se fournir en écran pour l'iPhone 14 Max. C'est Ross Yang, analyste généralement bien renseigné, qui le dit. Les fournisseurs d'Apple produisent 3 fois plus d'iPhone 14 Pro Max que d'iPhone 14 Max. Et impossible d'utiliser les écrans des uns dans les châssis des autres, les composants sont différents. Au bout du compte, on peut se demander si Apple ne va pas faire un lancement des iPhone 14 en deux temps, comme pour l'iPhone 12. Aujourd'hui avec Félix, on va se pencher sur une personnalité qui a contribué à faire d'Apple l'entreprise qu'elle est devenue, et même mieux, une véritable icône de la culture pop. Il s'agit de Suzanne Kerr, graphiste qui a œuvré sur le système d'exploitation du premier Macintosh, à qui l'on doit un langage visuel qui perdure encore aujourd'hui.
Suzanne Kerr est en effet une graphiste américaine qui est entrée chez Apple en 1982. Elle avait alors pour mission d'humaniser le Macintosh et de créer les interfaces graphiques et autres icônes de l'OS. Il faut dire qu'à l'époque, les ordinateurs se basaient majoritairement sur du texte et qu'il y avait beaucoup à inventer sur l'aspect visuel.
Oui, c'est à elle qu'on l'on doit des icônes célèbres comme l'indémodable poubelle vide ou pleine, le pot de peinture de remplissage de couleurs ou encore l'outil lasso. Elle a réussi à imager des actions à l'aide d'icônes simples et compréhensibles par n'importe qui. Son but, c'était de faire du Macintosh un appareil qui devienne quelque chose de familier, de clair et surtout d'intuitif pour guider les néophytes. Pour cela, le challenge est relevé haut la main et on ne peut que lui tirer notre chapeau.
Comme autre dessin légendaire, on pourrait également citer le Happy Mac qui s'est pendant longtemps affiché lors de la mise en route de l'ordinateur. Celui-ci a été remplacé par un logo Apple tout bête avec l'arrivée de Mac OS X Jaguar. Certaines des icônes les plus populaires de Suzanne Kerr étaient exposées pendant un temps en format XXL dans les locaux d'Apple à Cupertino, dans ce qui était appelé le jardin des icônes. Malheureusement, celui-ci a disparu en 1998.
Mais c'est aussi elle qui a dessiné la touche commande du Mac, dont vous ignorez peut-être pourquoi. Elle ressemble à un carré avec des nœuds. Ce logo vient à la base d'un panneau de circulation suédois que l'on peut aussi trouver dans plusieurs pays nordiques. Il indique une destination touristique intéressante et s'inspire d'un château vu du dessus, avec les quatre tours sur les côtés et le jardin au milieu.
C'est Suzanne Kerr qui a dessiné le fameux Dog Cow, une icône que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il s'agit d'une bestiole qui ressemble autant à un chien tacheté qu'à une vache et qui était utilisée pour montrer l'inclinaison du papier dans les paramètres de l'imprimante, à savoir portrait ou paysage. L'icône a été beaucoup appréciée et elle est devenue un symbole pour les développeurs Mac jusqu'aux années 2000.
Mais on ne doit pas à Suzanne Kerr qu'une poignée d'icônes. La graphiste est aussi responsable de nombreuses polices de caractère comme New York, Cairo ou encore Geneva. Pour l'anecdote, elle avait commencé par baptiser ses projets du nom de petite ville de Pennsylvanie. Cette idée aurait moyennement plu à Steve Jobs qui lui aurait demandé de choisir des noms de grandes villes pour un résultat plus classe.
2 ans après l'annonce du Macintosh, elle quitte Apple pour se lancer en indépendante. Elle se met à travailler pour Microsoft et va notamment plancher sur Windows 3.0 et sur ses icônes en couleur. Elle va entre autres designer le jeu de solitaire, maintenant connu du monde entier. Il a été pensé pour apprendre aux utilisateurs à servir de la souris et aux fonctions de glisser-déposer. Beaucoup de ses productions vont rester en place jusqu'à Windows XP.
Depuis, Suzanne Kerr a travaillé avec de nombreux grands groupes comme Facebook, IBM, Pinterest, ou plus récemment Niantic, les développeurs de Pokémon Go. Si vous êtes dans la région, le musée de l'imprimerie de Lyon lui dédie en ce moment une exposition qui sera ouverte jusqu'au 18 septembre 2022. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir plus en détail son œuvre et de prendre un bon bol de nostalgie. Merci à Félix Catafesta pour sa participation dans cet épisode. Un grand, grand, grand merci à vous tous de nous avoir suivis pendant toute cette première saison de Sortie de Veille. On se donne rendez-vous très bientôt pour de futures aventures.